Silcast présente la revue de presse, thème du jour, histoire récente géopolitique, avec Sacha et Elena. Bonne écoute.
On a un menu très histoire aujourd'hui, et j'aimerais commencer par un article du Monde diplomatique qui tombe à un moment très symbolique. 30 ans, jour pour jour ou presque, après le dernier essai nucléaire français à Fangataufa, l'Assemblée a adopté fin janvier en première lecture une proposition de loi pour élargir l'indemnisation des victimes. Le papier de Ferrarini revient sur ce passif nucléaire polynésien. Et franchement, quand tu regardes les chiffres, c'est édifiant.
Vas-y, quel chiffre tiens-tu?
193 tirs en Polynésie à partir de 1966, après 17 en Algérie. Et surtout, entre 2010 et 2017, sous le régime de la loi Morin, 11 Polynésiens indemnisés. 11. Sur une population exposée à des décennies d'essais atmosphériques puis souterrains. Le choix du site en 1962 s'appuyait explicitement sur la faible densité de population, 0,02 habitants au kilomètre carré. Autrement dit, on assume noir sur blanc qu'on va tester la bombe là où il y a des gens qu'on considère comme statistiquement négligeables. C'est du colonialisme nucléaire à l'état pur.
Sur la partie sanitaire, ce qui m'intéresse, c'est justement la reconstruction épidémiologique. Le problème avec la loi Morin, ce n'était pas seulement politique, c'était méthodologique. Le texte imposait un seuil de risque négligeable qui, dans les faits, permettait au comité d'indemnisation d'écarter la quasi-totalité des dossiers. Les études de dosimétrie rétrospective des essais du Pacifique, notamment celle de l'INSERM en 2021 sur les cancers de la thyroïde, ont montré que les niveaux d'exposition avaient été systématiquement sous-estimés par les documents militaires déclassifiés en 2013. Donc oui, le passif n'est pas soldé, y compris scientifiquement.
Et il faut noter la composition politique du texte, coportée par une députée indépendantiste polynésienne du Tavini et un député ensemble du Finistère, région d'anciens militaires du programme. C'est intéressant ça, parce que ça montre que la coalition victimaire dépasse le clivage colonisateur-colonisé. Les vétérans français ont aussi été utilisés comme cobayes. La bourgeoisie gaulliste voulait sa dissuasion, et elle l'a payée avec la santé des Polynésiens et de ses propres appelés.
Sur le vote unanime, je serai plus prudente. Voter en première lecture un principe d'élargissement, ce n'est pas encore débloquer les crédits, ni réécrire les critères de causalité. Il faudra regarder ce qui sort de la navette.
Tu as raison. L'unanimité coûte peu tant que l'enveloppe n'est pas chiffrée. Enchaînons peut-être sur l'autre papier du Diplo, celui de Bréville sur les états généraux de la Renaissance française de 1945. Là aussi, un pan d'histoire qui ressort littéralement d'un grenier.
J'ai trouvé ce texte fascinant sur le plan documentaire. Les archives de Louis Saillant, président du CNR, versées en 2011 au Centre d'histoire sociale du XXe siècle, 27 mètres linéaires, 202 boîtes, dont une quarantaine sur cette consultation. Et pendant 80 ans, on n'avait pas de synthèse. C'est un rappel utile que l'historiographie est aussi une question d'accès matériel aux sources.
Et politiquement, quelle histoire ? Le CNR qui, dès septembre 1944, avant même la fin de l'occupation, lance des cahiers de doléances en écho explicite à 1789. L'idée était de forcer la main au gouvernement provisoire pour appliquer le programme de mars 1944, celui de la Sécu, des nationalisations, du contrôle ouvrier partiel. Et qui s'y oppose ? De Gaulle frontalement. Parce qu'il refuse qu'une consultation populaire lui impose des orientations. Le PCF et la CGT poussent, la SFIO et le MRP traînent des pieds. On a là, en miniature, tout le conflit entre démocratie délibérative et césarisme républicain qui va structurer la Ve République.
Ce que je trouve intéressant méthodologiquement, c'est que le récit dominant de la Libération présente le programme du CNR comme un consensus élégamment appliqué. Or, si on suit Bréville, il y a eu une bataille active pour l'appliquer, avec une mobilisation populaire construite exprès, et cette bataille a été partiellement perdue, puis effacée de la mémoire. L'oubli n'est pas neutre.
Il ne l'est jamais. On préfère commémorer la résistance héroïque plutôt que la résistance programmatique. La première ne dérange personne, la seconde reste un scandale pour l'ordre établi. C'est pour ça que les cartons saillants sont restés fermés si longtemps.
Rapide crochet, si tu veux, par les papiers de Senses of Cinema sur Spike Lee, puisqu'on est dans l'histoire par le cinéma. Il y a 3 textes sur Malcolm X, Cat Little Girls et Summer of Sam. Ce qui m'a frappé, c'est la thèse commune. Lee inscrit systématiquement l'individuel dans le collectif et refuse le récit à la Ken Burns.
Oui, l'article sur Cat Little Girls est explicite là-dessus. La série Eyes on the Prize de PBS suit le template Ken Burns, narrateur à voix grave, grands hommes, grands événements. Lee, en 1997, prend le contre-pied et documente les vies ordinaires détruites par l'attentat de Birmingham en 1963. C'est une critique de la forme documentaire dominante, autant qu'un travail de mémoire.
Et l'article sur Malcolm X rappelle un détail que j'avais oublié. Warner Bros. A lâché Lee en pleine production, et le film a été sauvé par des financements privés de Cosby, Winfrey, Jordan. On peut discuter de ce que ça dit sur la dépendance de la production culturelle noire vis-à-vis du mécénat individuel, plutôt que des institutions.
C'est exactement le point. Le studio balkanise à 18 millions au lieu des 33 demandés, et l'accomplissement de l'œuvre dépend de la bonne volonté de quelques millionnaires. C'est la limite structurelle du contre-récit dans un système capitaliste. Même quand tu réussis, tu passes par la caisse d'une bourgeoisie sympathique. Ceci dit, le film existe et il a formé plusieurs générations.
Sur la trilogie Lee prise ensemble, ce que je retiens, c'est une pédagogie par le cinéma. Malcolm X en épopée, Quatre Little Girls en documentaire, Summer of Sam en fresque urbaine. Trois formes, une même insistance, à documenter les États-Unis par le bas.
Bonne synthèse. Et ça rejoint curieusement le geste des cahiers de doléances de 1945. Dire l'histoire depuis ceux à qui on ne la demande jamais.
On s'arrête là-dessus. La suite de la loi polynésienne, on la regardera à la navette parlementaire.
Sexy Everly.